Chapitre 3. Le colonel, la demande en mariage, première entrevue. Il riait auprès du piano, où l'on babillait sur n'importe quoi. Autour du foyer, la conversation languissait un peu parce qu'on attendait la table de whist. Ça et là, dans le reste du salon, les groupes ressassaient la chronique du jour. Dans la serre, où l'on voyait paraître et disparaître de rares promeneurs, l'entretien de Remy Darx et de la comtesse Corona allait s'animant de plus en plus. Le jeune juge d'instruction était très pâle et parlait avec une chaleur contenue. La belle comtesse s'arrêtait parfois pour l'écouter, tantôt riant aux éclats, tantôt émue et comme stupéfaite. Soit par hasard, soit à dessein, Valentine, dont les doigts blancs se jouaient avec distraction sur les touches du piano, s'était placée de manière à ne rien perdre de ce qui se passait derrière les châssis de la serre. Ces demoiselles, de leur côté, ne perdaient rien de ce qui se passait sur les traits charmants de Valentine. On pouvait dire ce qu'on voulait, les paroles ne signifiaient rien, puisque l'intérêt de la comédie était ailleurs. Valentine ne relevait-elle pas, malgré elle, ses grands yeux qu'elle eût voulu tenir baissés? Une rougeur fugitive ne montait-elle pas tout à coup à sa joue, et n'avait-on pas surpris le froncement de ses sourcils délicats? Marie de Trême, un blond amour, conclut une discussion musicale en disant « C'est égal, moi, j'aime mieux Schubert. Le roi des zones, voyez-vous, c'est un délice. » Elle ajouta, du bout des lèvres, « Mais comme Monsieur Remy Darx a de l'esprit ce soir avec la comtesse !» Valentine ferma le piano et tourna le dos à la serre. On entendit la voix un peu cassée de Madame la Marquise qui disait « Alors nous aurons encore une cause célèbre ce mois-ci » « Un succès colossal, repartit Madame de Trême, la mère de cette blonde Marie. On ne parle plus ni de Rachel, ni de Dupré, ni de Mario, ni de Grisy. Tout est aux habits noirs. » Un gros homme, assis auprès de la marquise, ajouta « Nous nous en occupons aussi à Saumur. »« Qu'est-ce que c'est donc que ces habits noirs ?» demanda d'un ton indolent Monsieur de Saint-Louis, de l'autre côté de la cheminée. Ce fut à ce moment que le valet annonça Monsieur le baron de la Perrière, qui fit son entrée rondement, en homme suffisamment appris. « Pour la 20e fois, pour le moins que j'entends cette question aujourd'hui, » dit-il, après avoir salué la marquise, « les Parisiens en deviendront fous, et jamais depuis la girafe on ne vit une vogue pareille. » Il y eut des groupes qui se rapprochèrent, et le gracieux conciliabule réuni auprès du piano se mit à écouter. « J'ai peine à croire, » reprit le gros homme, qui était un cousin de la marquise, habitant la province et s'occupant d'améliorations agricoles, « j'ai peine à croire que ces habits noirs aient l'importance de la bande châtelain et surtout des escarpes, dont la Gazette des Tribunaux nous a raconté les méfaits à Saumur. « Vous avez l'air très fort à Saumur, monsieur de Champion, » dit monsieur de la Perrière, qui lui offrit la main en souriant sur la Gazette des Tribunaux. « La bourse va bien, » répondit le gros homme, « mes bitumes ont monté de 3 francs, c'est bon signe pour la paix en Europe. » Puis, prenant tout à coup cet accent oratoire qui se gagne dans la pratique des comices agricoles, il ajouta « La Gazette des Tribunaux, monsieur le baron, répond à un besoin de notre époque. Je cherchais depuis longtemps pour ma fille un organe qui ne parlât ni politique, ni religion, ni morale, ni surtout littérature, car c'est la ruine de famille. La Gazette des Tribunaux remplit admirablement ces diverses conditions. » « Elle a évidemment été fondée pour le délassement des demoiselles, » murmura monsieur de la Perrière en gardant son grand sérieux. « Avant de m'abonner, » continua le cousin de Saumur, « j'ai fait prendre des renseignements par mon auteur, car j'avais été la victime de plusieurs publicistes qui avaient mis la clé sous la porte après avoir encaissé mon argent. « On dit, » interrompit monsieur de la Perrière, « que les habits noirs avaient un journal officiel. » La Gazette des Tribunaux, repartit très ingénument le gros homme, ne fait pas mention de cette circonstance. Les renseignements fournis furent excellents. J'eus la preuve que l'entreprise était dans une situation florissante, et depuis 18 mois, nous recevons cette feuille véritablement intéressante, dont Mademoiselle de Champion nous lit les articles après le dîner. « Ce doit être une jeune personne très instruite, » fit observer Madame de Trême avec son bienveillant sourire. Le cousin de Saumur la regarda d'un air un peu inquiet. « Il est bien entendu, madame, ajouta-t-il en baissant la voix, que je marque au crayon, pour n'être point lu, les articles spécialement faits pour notre sexe, tels que les affaires d'infanticide et les attentats à la pudeur. » Le groupe du piano ne bougea pas plus que si l'on eût parlé latin. La marquise eut une quinte de tout, et madame de Trèmes joua de l'éventail. « Vous autres parisiens !» s'écria monsieur de Champion, pendant qu'un rire discret faisait à bas bruit le tour des salles. « Vous aimez mieux lire des romans, toujours inutiles, quand ils ne sont pas dangereux, et dévorer les attaques incendiaires que les plumes de l'opposition dirigent contre le gouvernement. Chacun son goût. À Saumur, nous respectons les mœurs, et nous savons apprécier les bienfaits de l'ordre public. » « Je suis entièrement de l'avis de monsieur de Champion, » dit le fils méconnu de Louis XVI, à qui la marquise offrait une carte pour le whist. « La province est le dernier espoir de notre civilisation malade. » La marquise revint au cousin de Saumur et lui dit tout bas, en lui présentant le jeu de cartes, « Il est la sagesse même, et vous voyez qu'il partage les opinions de Saumur. » Monsieur de la Perrière s'était rapproché du colonel Bozzo. « Pas de whist ce soir, » murmura-t-il rapidement. « Soyez tout entier à votre mécanique. Il fait jour. » Les longues paupières du vieillard s'abaissèrent pour cacher l'étincelle qui s'allumait dans ses yeux. « Monsieur l'abbé, » dit-il de sa voix câline et douce, « soyez assez charitable pour me débarrasser de cette carte. L'habitude est une seconde nature. Quand on m'offre une partie de whist, j'accepte toujours sans songer à ma vue, qui n'en peut plus. Prenez, ce sans compliment, vous me rendrez service. » Il s'appuya sur le bras du baron et l'entraîna vers la serre. Sur le passage, tout le monde causait de la bande des habits noirs. Il n'y a pas à établir de catégorie entre les diverses classes de la société parisienne quand il s'agit d'une cause célèbre. Cela intéresse et passionne tout le monde au même degré. La conversation avait pris feu comme une traînée de poudre. Jolies filles, jeunes gens et personnages graves y allaient avec le même entrain. Assurément, le cousin de Saumur était beaucoup moins naïf qu'il n'en avait l'air quand il disait que la Gazette des Tribunaux répond à un besoin de notre époque. Nous sommes fous de crimes et l'on connaît l'histoire de cet éditeur qui disait à ses manœuvres littéraires « Nous n'avons plus besoin de livres qui aient une tête et une queue, pourvu qu'il y ait deux ou trois bons assassinats dans chaque chapitre. » Il se trouvait que tout le monde avait une provision de ces renseignements qui se ramassent chez nous à poignées, dans les journaux, dans les cafés, dans les salons. Chacun savait les noms de ces misérables, obscurs la veille et qu'entourait aujourd'hui une sorte de gloire populaire. On dit que dans leurs geôles fermées, le bruit de cette hideuse célébrité parvient toujours jusqu'à eux et que leur sauvage orgueil s'en exalte jusqu'au délire. « Est-ce vrai ?» demanda cette blonde Marie, prononçant le chef de la bande comme si elle eût parlé d'un vaillant soldat ou d'un poète à la mode. « Est-ce vrai que monsieur Mac Labussière est un joli homme ?»« Oh, très joli !» lui fut-il répondu. « Il est danois d'origine et de la meilleure noblesse. Il se faisait habiller chez Hohmann. Il était habitué des coulisses de l'opéra et on prétend que deux de nos lionnes les plus à la mode se sont rencontrés à la porte de sa prison. » « Voyez, c'est curieuse, » dit madame de Trèmes, essayant de moraliser l'anecdote. « Et monsieur Méliande ? Oh, celui-là allait à la cour, tout uniment. Bien plus, il collaborait avec monsieur Scribe. Ah, j'ai sa marchande de gants, il en usait une douzaine et demie chaque semaine. Oh, » Madame Méliande se mettait à ravir. « Il y a donc une madame Méliande ? Oui, très liée avec la femme d'un député qu'on nomme. Et dame de charité ? Hébert, celui qu'on appelle le comte de Castres, quand on l'a arrêté, était sur le point d'épouser 1 500 000 francs et des espérances. C'est monsieur Méliande, demanda Marie, qui était connu sous le sobriquet de Cancan. Elle s'arrêta confuse, parce que madame de Trèmes la foudroyait du regard. « Et qu'il dansait !» s'écria un échappé de collège avec l'accent de l'enthousiasme. « Je l'ai vu l'année dernière, au bal Musard. » « Comment, monsieur Ernest, vous allez au bal Musard ?» Au milieu de ce feu croisé, Valentine restait silencieuse. Écoutait-elle, ses lèvres avaient un pâle sourire, et à la voir de loin, les yeux baissés à demi, la tête inclinée, vous eussiez dit une adorable statue. Elle tressaillit faiblement parce qu'une voix dit derrière elle « Quelqu'un en sait long sur tout cela, c'est monsieur Remy Darx. » Elle releva les yeux et vit fixés sur elle ceux de la marquise qui la regardaient affectueusement. « Soyons au jeu, madame, dit à cette dernière monsieur de Saint-Louis, vous avez coupé mon sept de carreaux, qui était roi. » La marquise s'excusa en souriant. Avant de quitter le salon, le colonel lui avait parlé à l'oreille, et depuis lors elle restait toute rêveuse. « Fillette, dit-elle de loin à Valentine, quand tu voudras, tu arrangeras une contredanse. » « À Saumur, fit observer le cousin, on oserait danser devant un membre du clergé. Il n'y a plus d'atout, et maîtresse son maître. Est-ce joué, monsieur le chanoine ?» Il étendit ses trois dernières cartes sur la table. « À Paris, pour ce qui regarde la danse, répondit le vieux prêtre, nous faisons comme nous pouvons. « Ah, mais vous n'avez pas bien compté les atouts, cher monsieur, ajouta-t-il en coupant, et vous venez de perdre deux levées par votre faute. » Valentine et Marie, assises au piano, attaquaient déjà un quadrille à quatre mains. « C'est vrai, pourtant, dit mademoiselle de Trèmes pendant le prélude, monsieur Darx doit savoir bien des choses, car c'est lui qui avait commencé l'instruction, mais c'est l'homme du mystère, on n'en peut jamais rien tirer. » Dans la serre, il n'y avait plus que deux couples, le colonel Bozzo et monsieur le baron de la Perrière. Auprès de la porte d'entrée, Remy Darx et la comtesse Corona de l'autre côté et cachés derrière un massif de yucca. Monsieur le baron avait quitté cette apparence de respect qu'il gardait naguère vis-à-vis du vieillard et lui parlait avec une familiarité effrontée. Le colonel, lui, ne changeait jamais, c'était toujours la même placidité, discrète et douce. « Voilà, dit le baron, toutes vos histoires s'arrangent toujours avec la main, vous avez une chance de posséder, papa. » « Monsieur Lecoq, répondit le colonel, les histoires ne s'arrangent jamais d'elles-mêmes, on les arrange. Tes yeux ne sont pas mauvais, mais il te faudrait des lunettes, que tu n'as point, pour voir où et comment j'attache les fils de ma trame. » Dans ma jeunesse, je te ressemblais, j'étais comme une corneille qui abat des noix, mais vers l'âge de 40 ans, un matin, au Castel Vecchio de Naples, où j'étais prisonnier, il m'arriva de regarder travailler une araignée. Ce sont des bêtes fort intelligentes, et crois-moi, quand elles attrapent une mouche, il n'y a ni bonne ni mauvaise chance, c'est du talent, et voilà tout. Alors, s'écria Lecoq avec impatience, vous voulez me faire croire que tout cela a été arrangé de longueur, le jeune homme d'Algérie, la jeune fille de la foire, et le reste, pour pincer de seconde main les diamants de Carlotta Bernetti? Le colonel eut un rire silencieux. Quand je ne serai plus là, murmura-t-il, vous me regretterez. Je me moque des diamants de la Carlotta comme d'une guigne. S'il ne s'agissait que de faire une rafle d'argent, madame la marquise d'Ornans est mûre, on pourrait l'accueillir aujourd'hui ou demain, mais nous n'en sommes pas là, mon bijou. Dans la partie qui est engagée, nous jouons plus gros que cela. C'est une question de vie ou de mort, non pas pour les autres, comme à l'ordinaire, mais pour nous-mêmes cette fois. Me comprends-tu ? Pas encore, fit Lecoq. La voix du vieillard s'était raffermie, il parlait bas, mais net. « Il y a un limier sur notre race, dit-il, un fin limier. Ne cherche pas à deviner, celui-là n'est pas de ton monde, et tu ne l'as jamais rencontré dans les corridors de la rue de Jérusalem, monsieur de la Perrière. »« Oh bah !» fit Lecoq avec un vaniteux sourire. « Je fréquente plus d'une sorte de monde, papa, et il ne faudrait pas croire non plus que vous êtes le seul pour voir plus loin que le bout de votre nez. » Le colonel le regarda par-dessous ses paupières demi-baissées. « Tu as de la capacité, mon chéri, prononça-t-il tout bas et d'un ton de caresse, beaucoup de capacité. C'est toi que j'aime le mieux, tu le sais bien, et je te garde mon héritage. Voyons si tu as touché juste. Où prends-tu le limier dont je parle ?»« Parbleu, fit Lecoq, le voilà qui cause là-bas avec Fanchette. » Son doigt tendu montrait M. Remy Darx, au bras de qui la belle Francesca Corona s'appuyait maintenant, sérieuse et attentive. « Tiens, tiens, murmura le vieillard du ton d'un maître que les progrès de son élève surprennent agréablement. « J'ai toujours dit que tu étais un joli sujet, mon fils. Tu as mis dans le blanc du premier coup. »« Et si j'étais à votre place, interrompit Lecoq, ce bel oiseau-là ne m'inquiéterait guère. C'est moi qui vous le dis. » Les sourcils du colonel s'étaient froncés légèrement. Un sourire dédaigneux se jouait dans les rides de sa bouche. Je suis bien vieux, dit-il avec lenteur. C'est quand je ne serai plus là qu'on saura ce que je valais. Ce bel oiseau, comme tu l'appelles, est le plus terrible danger, le seul danger véritable, pour mieux dire, qui ait jamais menacé l'association depuis que je l'ai fondée. Il a du sang corse dans les veines, et il a juré la vendetta contre nous. Voilà 10 ans qu'il travaille en silence. C'est un chercheur, c'est presque un sorcier. Si le hasard n'avait placé sur sa route un homme plus fort que lui, et cet homme-là, c'est moi, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. » Le coq ouvrit ses yeux tout grands. « Vous ne plaisanteriez pas avec moi sur un sujet pareil, papa, » grommela-t-il. « Pourquoi n'avez-vous pas prévenu le conseil ?»« Le conseil est convoqué pour demain. Ne me demande pas d'autres comptes. Je veillais et je suis le maître. » « Mais de partout les diables !» s'écria le coq. « Il en sait donc bien long ?»«
Il en sait plus long que toi, il en sait presque aussi long que moi, et si je n'avais pas été là, placé comme un obstacle au-devant de ses yeux et trompant tous ses calculs par le respect qu'il me porte, il connaîtrait dès longtemps les hommes comme il connaît déjà les choses. »
« Il suffirait donc d'un hasard ?» commença le coq, dont l'accent était inquiet.
« Il n'y a pas besoin de hasard, » interrompit le colonel. « La logique même de son travail rigoureux et implacable doit le conduire à la vérité. »«
Mais alors, » dit le coq, qui regarda le vieillard en face. Il n'acheva pas. Son geste brutalement expressif traduisit sa pensée. Le colonel s'était assis et tournait ses pouces d'un air bénin.
« Voilà le hic, » murmura-t-il en soupirant. « On ne peut pas empêcher ces diables d'auteurs dramatiques de faire leur état, mais ils ont quelquefois des idées bien dangereuses. Il y a dans la tour de l'aile, à l'acte de la prison, une invention tout à fait agaçante pour les personnes qui, comme nous, ont quelquefois besoin de se défaire de quelqu'un. La précaution de Buridan est simple et à la portée de tout le monde. Un enfant peut s'en servir. » Il a les mains liées, le fin matois et le carcan autour du cou, on vient lui mettre le couteau sous la gorge, cela semble aller tout seul, mais pas du tout, il avait prévu le cas et déposé en lieu sûr une arme qui partira si on le tue. Mon ami Darks ne s'est pas mis en frais d'imagination, il a fait uniment comme Buridan, et si aujourd'hui pour demain il était supprimé par notre industrie, la mine qu'il a creusée éclaterait et nous sauterions comme un bouchon de champagne. Voilà. Pendant le silence qui suivit cette déclaration, faite d'un ton sec et péremptoire, on put entendre à travers le grêle feuillage des plantes tropicales la voix de la comtesse Corona qui disait
« Mais c'est inimaginable, je vous écoute comme on lirait un roman. Vous êtes plus extravagant qu'un collégien et plus timide qu'une jeune fille. »
Remy Darks répondit « Je l'aime comme jamais femme ne fut aimée. « Tant que je n'ai pas parlé, mon espoir me reste, et il me semble que si je perdais mon espoir, je mourrais. »
Le colonel se frotta les mains tout doucement, pendant que sa tête battait la mesure du quadrille condensé dans le salon voisin. « Le capitaine Buridan, reprit-il avec sa gaieté sénile et doucette, n'avait affaire qu'à Marguerite de Bourgogne, une femme de bien mauvaise conduite. Le bon colonel Bozzo n'était pas dans tout cela. » Pour un habile prévôt d'armes, j'étais un assez fin tireur dans le temps. Il n'y a point de botte qui n'ait sa parade. Revenons à nos moutons, l'amitié. Tu as visité toi-même les deux chambres contiguës.
C'est comme si on les avait fait exprès. Je les connaissais d'avance.
Et qui as-tu chargé du travail d'art pour l'effraction?
Cocotte. J'ai vu de son ouvrage, il va bien. Et pour exécuter, qui as-tu choisi?
Marchef.
Le colonel eut un petit frisson de femme et dit entre ses dents « Une bête brute qui me fait peur, mais qui ne rate jamais sa besogne. »
« Et avec cela, » demanda le coq, dont l'accent exprimait une curiosité mêlée de crainte, « ne comptez-vous pas arrêter votre homme ?»«
Qui ? Le Buridan ?» s'écria gaillardement le colonel. « Tant que je suis là, mon trésor, n'aie jamais peur. Je suis fort sur la loi, comme Thalberg sur le piano. Nous mettons en branle cette nuit une petite mécanique à compartiments et à ressorts, dont je t'expliquerai les détails une autre fois. Avec ce système mignon, je suis sûr de fourrer le Buridan dans ma poche. »
« Je comprends à moitié, » dit le coq. « Si la jeune fille accepte,
il est perdu, mon fils. Mais si elle refuse ?»
« Mon fils, il est tordu. »
Le coq lui jeta un regard où il y avait de l'envie et de l'admiration. Le colonel surprit ce coup d'œil et son antique visage s'épanouit en une expression de naïf contentement.
Ce sera ma dernière affaire, dit-il, et je veux que ce soit mon chef-d'œuvre. Il s'interrompit pour consulter sa montre et s'écria: 11 heures. Cocotte doit avoir achevé son travail préparatoire et le marchef attend déjà dans son bûcher. Il est temps que j'entame ma scène avec le buridan. Revenez au salon, monsieur de la Perrière, et, s'il vous plaît, dites à la Marguerite que le mariage de mademoiselle de Villanove est... dites-lui seulement que tout va comme sur des roulettes. C'était un repos entre deux quadrilles, et quelques groupes rentraient dans la serre. Le colonel saisit au passage Marie de Trême et une autre jeune fille pour s'appuyer paternellement sur leurs bras. « La danse vous a-t-elle fait oublier les habits noirs ?» demanda-t-il, chers enfants. Ah, « mais pas du tout !» répliqua la blonde Marie, « et nous venions rôder autour de Monsieur Remidars pour tâcher de surprendre quelque intéressant secret, car, ajouta-t-elle malicieusement, je suis bien sûr que depuis le temps ils causent habits noirs, tous deux, lui et Madame la Comtesse. » Le colonel lui caressa la joue et dit, en élevant la voix, « Remy, mon enfant, voici deux charmants démons qui accusent ma petite Fanchette du crime d'accaparement. » La belle comtesse se retourna aussitôt, souriante, mais Remy rougit comme si on lui eût adressé un reproche sérieux. « N'est-ce pas, s'écria mademoiselle de Trême avec sa candeur effrontée, que vous causiez de Maclabussière, de Méliante et du comte de Castres ?»« Non, répondit Francesca Corona sans perdre son sourire, il s'agissait entre nous de choses beaucoup plus intéressantes, et je vous demande bien pardon, mes chères belles, si je vous enlève mon bon père, mais nous avons à lui confier un grand secret. » « Allons, dit Marie en quittant le bras du colonel, nous ne saurons rien. Ah, que je voudrais être de Saumur !»« Pourquoi cela ? » fit bonnement le colonel. « Parce que toutes les demoiselles de Saumur ont la gazette des tribunaux sur leur table de nuit. » Elle ajouta pendant que tout le monde riait. « Ou bien je voudrais être comme Valentine, que la curiosité ne démange jamais, parce qu'elle a autre chose en tête. » Elle s'enfuit, décochant son regard entre les deux yeux de Remy d'Arx comme un trait de Parthe. « Voyons ce grand secret, dit le colonel qui semblait enchanté. Il triomphait en lui-même, pensant « Le coq est le plus fort, mais il ne me va pas à la cheville. Il appelle cela jouer de bonheur, moi je dis que c'est bien joué, voilà la différence. » Remy avait pris les deux mains de la comtesse. « Je vous en supplie, madame, murmura-t-il avec une fatigue découragée, j'ai mis à nu pour vous, qui êtes ma meilleure amie, le fond même de mon cœur. J'avais besoin de me confesser un peu, mais cet effort m'a brisé, et je sens qu'il ne faudrait point aujourd'hui toucher davantage à ma blessure. » Dans le regard du colonel, il y avait une petite pointe de sarcasme, émoussée par un attendrissement bien marqué. « Voilà un grave magistrat, prononça-t-il entre haut et bas, voilà le plus savant et le plus clairvoyant de nos jeunes jurisconsultes. Je voudrais gager qu'il sera conseiller dans un an et que, vers sa 40e année, il s'éveillera un matin garde des Sceaux. Mais, sans godemie, quand il ne s'agit plus de code civil ou de pandecte, il perd la tête volontiers, et c'est bien l'amoureux le plus poltron que j'ai rencontré dans ma vie. » « Mon père, fit la comtesse avec reproche, vous ne savez pas, commença Remy d'Arx. Je sais, interrompit le colonel, que je ne veux rien savoir. Je n'aime pas forcer la confiance de mes amis, et toutes ces histoires-là ne sont plus guère de mon âge. Parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Remy, mon cher enfant, j'ai lu d'un bout à l'autre le remarquable travail que vous m'avez confié. » Pour moi, qui connais le pays de Corse et qui ai, pour ainsi dire, été le témoin des faits présentés par vous, je suis très vivement frappé de votre discussion et de vos conclusions. Mais si je me mets au point de vue du ministre et même du public, faut-il l'avouer, j'ai peur que l'ensemble des faits ne soit pas pris au sérieux à cause de je ne sais quelle couleur romanesque. La comtesse fit un geste de franche impatience. « Bon père, dit-elle, je te jure que le ministre et le public nous importent bien peu en ce moment. »« Laisse, mon enfant, répliqua le colonel presque sévèrement, tu vois bien que monsieur Remy d'Arx écoute. » Le jeune juge d'instruction écoutait en effet, il avait les yeux baissés et un rouge vif remplaçait la pâleur habituelle de sa joue.
« Je vous remercie, mon excellent et cher ami, répondit-il. J'ai voulu avoir sur ce travail les conseils de votre expérience. Les faits sont d'une exactitude rigoureuse. Ils empruntent au procès qui va se juger devant la cour d'assises de la Seine un intérêt d'actualité. Je suis déterminé à soumettre mon mémoire à qui de droit, ne fût-ce que pour empêcher la justice de s'égarer dans une fausse voie. » Il n'y a pas un seul habit noir dans la bande qui porte ce nom, et, voulez-vous savoir, la grande, la terrible association de malfaiteurs que je me suis donné la mission de poursuivre profitera certainement de ce quiproquo judiciaire. « Si vous craignez cela, repartit vivement le colonel, pourquoi n'avez-vous pas retenu l'instruction qui vous avait été confiée ?»« J'ai eu tort peut-être, dit Remy d'un air pensif, mais je ne trouvais rien là de ce que je cherchais. » C'est une bande peu nombreuse de coquins vulgaires qui ne connaît ni les statuts ni le mot d'ordre des frères de la Merci. Je sens que je suis sur la piste et que chaque pas me rapproche d'un but ardemment poursuivi, et je n'ai pas voulu me détourner de ma route. « Avez-vous quelque fait nouveau ?» demanda plus tranquillement le colonel depuis que vous m'avez remis votre mémoire. « J'ai reçu les lettres attendues de Sartène, répondit le jeune juge d'instruction. Je ferai le voyage, et dussé-je m'introduire moi-même dans cette caverne ?» Le colonel hocha la tête. « De deux choses l'une, fit-il avec froideur, ou il y a là-bas un repère de loup, ou il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, rien à faire. S'il y en a, le plus mauvais moyen de prendre les loups est de se fourrer dans leur gueule. » « Je n'ai pas tout dit, ajouta Remy Darx. Demain, je vais recevoir la visite d'un révélateur. » « Au sujet des bandits de la Corse ?»« Au sujet des bandits de Paris. » Un observateur très attentif eut peut-être remarqué un certain mouvement de révolte parmi les mille rides qui se croisaient sur le visage du colonel, mais ce fut l'affaire d'une seconde, et il répéta d'une voix parfaitement calme, « Demain, ah, demain, voici qui prend une tournure. Croyez-moi, cher enfant, ne négligez aucune précaution et soyez bien armé lors de cette entrevue. Pour ce qui regarde votre travail, je vous prie de me le laisser encore un jour ou deux. J'ai déjà pris quelques notes qui pourront vous être utiles. Ma connaissance complète du pays donnera une certaine valeur à mon témoignage, surtout auprès de son Excellence, qui était inspecteur des prisons sous le règne de Charles X et qui, lors de sa dernière tournée, voulut bien accepter ma modeste hospitalité au château de Bozzo. À mon âge, vous le savez, les souvenirs ne se présentent plus en foule, ils reviennent un à un, et je les écris à mesure. » Remy ouvrait la bouche pour rendre grâce de nouveau en acceptant volontiers le délai imposé, lorsque la comtesse Corona, dont les ongles roses battaient la générale sur les vitres de la serre, se retourna et dit avec une véritable explosion de colère, « Ah ça, quel jeu jouons-nous ici? Monsieur Darx s'est-il moqué de moi quand il m'a parlé pendant 2 heures, 2 heures d'horloge, de son martyr, de ses craintes, de ses espoirs, de son amour enfin qui s'exhalait en paroles embaumées, douces et pures comme un chant de rossignol ?»« Au nom du ciel, balbutia le jeune magistrat, il n'y a pas de ciel qui tienne, ou plutôt le ciel est bleu comme votre flamme, et il faut que j'en aie le cœur net. » Vous seriez capable de recommencer demain, je ne veux pas faire tous les jours pareille dépense de tendre pitié. Ne vous insurgez pas, bon père, ajouta-t-elle, en tendant son front à baiser du colonel. Vous avez dit le vrai mot, ce grand homme est poltron comme un lièvre. Il a saisi aux cheveux votre conversation d'habits noirs, de bandits, de cavernes, de mémoires à consulter, tout exprès pour m'empêcher d'entrer en matière. Mais on ne nous donne pas le change ainsi, et je crois avoir mérité suffisamment un premier prix de patience. Je vous déclare donc, bon père, que notre bel ami ici présent se meurt du mal d'amour, et qu'il n'y a pas besoin des habits noirs pour l'exterminer, et que, si vous refusez de lui venir en aide, nous n'avons plus qu'à porter son deuil. » Remy Darx avait baissé la tête et gardé le silence. Il était facile de voir combien cette façon légère de parler lui était blessante et douloureuse. « Voyons, voyons, dit le colonel, tu n'as pas l'habitude d'être cruel ainsi, Fanchette. » « Je suis cruel, repartit la comtesse, parce que je veux être cruel. Il ne faut pas qu'un médecin ait l'âme trop sensible. Nous avons un malade qu'il faut guérir à tout prix.
Tout ce que je veux faire, c'est d'abréger l'opération. En vous disant du premier coup que Remy est éperdument mademoiselle de Villanova et que, si vous ne la lui donnez pas, il compte bel et bien mourir de chagrin.
« Valentine, murmura le vieillard, qui jouait l'étonnement au naturel, comment il s'agit de Valentine et notre ami n'a rien dit ?»
Remy d'Arc se leva sur lui en regard de détresse pendant que Francesca reprenait haleine.
« Il ne vous dira rien, continua-t-elle en saisissant les deux mains du jeune magistrat, qu'elle serra affectueusement entre les siennes. Il tremble de fièvre, il fait pitié. »
« Ah, c'est un grand amour, mon père, continua-t-elle d'une voix changée. Ah, j'aurais voulu que vous puissiez l'entendre tout à l'heure. La passion s'épandait hors de son âme comme un flot d'éloquence et de poésie. Il était si beau que je pleurais, si ridicule que je riais comme une folle. »
Une larme roula sur sa joue, tandis qu'elle poursuivait. « Un homme fort, le plus fort peut-être de ceux que j'ai rencontrés et admirés. Je viens de le voir timide plus qu'une jeune fille, irrésolu plus qu'un enfant et radotant parmi de sublimes élans le fade cantique de Céladon. Deux heures, je vous le dis, deux heures. Il me semblait que je ne l'avais jamais vu. Il était beau comme un archange. Et sa voix avait des vibrations de harpe. Oh, quel poète. Et quel collégien monté en graine. Ami, bien cher ami, pardonnez-moi. Je me venge d'avoir été trop puissamment ému. »
Elle se tourna vers le colonel et acheva en contenant un profond soupir.
Ah, il y en a qui sont heureuses. Notre Valentine sera bien aimée.
Personne n'était là pour souligner le côté comique de la situation. Le colonel calculait son jeu froidement, tout en se donnant l'air de gagner l'émotion contagieuse qui soulevait le sein de Francesca. Remy tournait vers eux à la dérobée un regard timide et déjà reconnaissant. Le colonel rompit le premier le silence. « Ah, pauvre Bichette, dit-il en atteignant son mouchoir pour essuyer ses yeux secs, tu n'as pas eu beaucoup de bonheur en ménage, c'est vrai. Si aussi bien je t'avais donné une perle comme ce cher Remy, mais voyons, voyons, nous n'avons pas le sens commun, mes trésors. Ce n'est pas en pleurnichant qu'on arrange les affaires. Moi, d'abord, ce mariage-là m'enchanterait. Remy et Valentine, les deux chers enfants gagneraient tous deux du même coup un gros lot à la loterie de l'avenir. » Quel joli couple et quelle bonne maison aussi, car ils sont riches tous les deux. Je connais, à l'égard de Valentine, les intentions de Madame d'Ornan et d'une autre personne qu'il est inutile de nommer. Parlons peu et parlons bien. Notre bon Remy s'est-il déclaré vis-à-vis de la jeune personne ?
Oh, fit le jeune magistrat, jamais.
« Mais regardez-le donc !» s'écria la comtesse, « et ne lui faites pas semblable question. C'est à moi qu'il adresse ses déclarations, des paroles qui brûlent et qui attendriraient une tigresse.
C'est que, fit le colonel, ce n'est pas la même chose. A-t-il au moins quelques données sur l'état du cœur de notre Valentine ?»«
Si j'avais eu la moindre espérance, » commença Remy d'un ton désolé. « C'est la peine du talion, » interrompit Francesca. « Pauvre monsieur d'Arx, vous avez tenu en votre vie tant de gens sur la sellette, voilà qu'on vous fait subir à votre tour un interrogatoire. »
« C'est moi qu'il faut interroger, père, » se reprit-elle. « Je vais prêter serment, si on veut, pour dire, quand mon âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, il ne serait pas impossible que la chère enfant eût tourné ses beaux yeux du côté de l'accusé. »
« Par pitié, madame, ne raillez pas, » supplia Remy, dont la détresse était au comble.
« Vous n'avez pas la parole, » reprit gaiement Francesca. « Père, je me suis aperçu plus d'une fois que vous aviez la vue admirablement perçante.
« Pour mon âge, » rectifia le colonel, « il est vrai que je me passe encore de lunettes. »
« Interrogez vos souvenirs. N'aviez-vous pas remarqué souvent que Valentine devenait toute rêveuse quand M. Remy d'Arx tient au salon le dé de la conversation ?»
Le colonel eut son petit rire débonnaire.
« Pauvre Minette, dit-il, voilà où ma vue faiblit. Quoi que tu en dises, je n'ai plus les yeux qu'il faut pour voir ces choses-là. Je suis en vérité fort embarrassé, car je me trouve entre deux opinions contraires. Tu vois tout en rose, le pauvre Remy voit tout en noir. Il faut un tiers arbitre pour vous départager. Choisissons-le. Que diriez-vous de la marquise, ou de Valentine elle-même ?
La comtesse se jeta à son cou et lui donna un retentissant baiser.
« Il n'y a rien au monde de si charmant que toi, père, bon père, s'écria-t-elle, puisque tu es avec nous, la bataille est gagnée. Un genou remis, et remerciez votre sauveur. »
« Folle que tu es, dit le colonel, tu es seul à te réjouir, tu vois bien que Remy garde le silence. »
Un instant, ils restèrent muets tous les trois. Puis la comtesse reprit, essayant en vain de garder sa gaieté.
« Il n'y a pas dans l'univers entier deux hommes comme celui-là. Il aime tant que sa torture même lui est chère et qu'il a peur de regretter le tourment de son incertitude. »
« Tout cela est fort joli, déclara le colonel, et j'ai peut-être été ainsi il y a 70 ans, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. Je demande purement et simplement à M. Darx s'il lui convient que je porte la parole en sa faveur. »
« Colonel, répliqua Remy Darx, qui se redressa et dont la voix se raffermit, je connais votre amitié dévouée, j'en suis profondément reconnaissant. Je sais du reste que je ne pourrais choisir un meilleur avocat que vous. »
« Faites donc pour le mieux et recevez mes remerciements à l'avance. Vous m'accusez à bon droit de lâcheté, j'aurais voulu, je le confesse, retarder ce moment où mon arrêt va être prononcé, l'arrêt de ma vie ou de ma mort. Quoi qu'il arrive, ne trompez point, je vous prie, et que la réponse de mademoiselle de Villanova me soit transmise dans les termes mêmes où elle aura été prononcée. J'attendrai ici, je désire être seul. »
La comtesse, ainsi congédiée, prit le bras de son grand-père et l'entraîna vers le salon. Elle tourna encore un regard vers Remy Darx, qui s'était assis derrière la touffe de yucca, la tête entre ses mains, et ce fut avec une ardente, une jalouse admiration qu'elle murmura « On peut donc être aimé ainsi ?»
Le colonel était de ces comédiens qui ne s'oublient jamais en scène et jouent jusque dans la coulisse.
« Que va dire la marquise ? » murmura-t-il, comme s'il se fût parlé à elle-même.
« Oh, père ! » s'écria Francesca, « la marquise est préparée, la marquise va être enchantée. Dans toute cette affaire-là, il n'y a que toi de surpris. »
« Et tu sais, ajouta-t-elle, c'est bien vrai ce que je disais tout à l'heure. Cette chère Valentine est suspendue aux lèvres de M. Darx dès qu'il cause. » Quand il parlait l'autre soir de cette mystérieuse association, qui me fait peur parce qu'elle ressemble à des choses vagues dont je me souviens, ou que j'ai rêvé au temps où nous habitions en Corse, elle dévorait ses moindres mots. Je ne suis pas la seule pour m'être aperçue de cela, ces demoiselles en chuchotent et en rient. « Ah !» fit le colonel d'un air distrait, « ces demoiselles, voilà qui est grave. Quelle singulière chose que l'âge, moi, je n'ai rien vu du tout. »
Le salon était rempli et le petit bal s'agitait gaiement. Valentine, animée par la danse, resplendissait de beauté. La marquise venait de gagner 3 robes au whist. Elle céda ses cartes au cousin de Saumur, parce que le colonel lui avait dit à l'oreille « Madame, je désirerais vous parler en particulier sur le champ ».
Le colonel lui offrit son bras et ils se dirigèrent vers le boudoir, dont la porte s'ouvrait vis-à-vis de la serre.
« Est-ce qu'il s'est déclaré ?» demanda la marquise.
« Formellement. »«
Alors, nous parlerons à la chère petite dès demain. Nous lui parlerons dès ce soir. »«
Comment ce soir ?» s'écria Madame Dornan.
« Chère madame, répondit le colonel Bozzo, qui s'était assis dans son attitude favorite, les jambes croisées l'une sur l'autre, et qui déjà tournait ses pouces, « vous n'avez pas idée de cette passion-là. Le feu est à la maison. »
« En vérité, fit la marquise en riant, le superbe Hippolyte a trouvé son art ici. »«
Qu'y a-t-il donc ?» demanda Valentine en passant le seuil du boudoir. « Francesca m'a enlevé mon cavalier au moment où nous allions entamer un cotillon. Elle m'a dit que j'étais attendu ici pour une communication importante. »
Elle souligna ce mot et vint s'asseoir sur un tabouret entre la marquise et le colonel. Ceux-ci souriaient tous les deux.
Ce fut la marquise qui prit la parole.
« Tu es une charmante enfant, dit-elle, on t'adore, mais ceux qui t'aiment le mieux ne savent pas toujours sur quel pied danser avec toi. Le mieux est de te dire tout uniment qu'il s'agit de te marier.
»« Bravo, murmura le colonel, voilà de la diplomatie. »
Valentine resta un peu interdite, puis elle dit «
Déjà, belle maman, je pensais bien que cela viendrait un jour ou l'autre, mais je crois avoir encore du temps devant moi.
Puis elle ajouta, avec une pétulance pleine de câlinerie, « Est-ce que vous voulez me faire du chagrin, vous deux? Voyons, je suis heureuse ici, ma chère tante, et pour moi la meilleure des mères. » Elle prit une des mains de la marquise qu'elle baisa et demanda, certaine de la réponse, « Est-ce que vous ne voulez plus de moi, belle maman ?» Le colonel atteignit sa petite boîte d'or et en tapota le couvercle d'un air pensif. Hein, « voilà cette bonne marquise qui a déjà la larme à l'œil, dit-il. Après le jeune chat, la jeune fille est l'animal le plus gracieux de la création. Alors, Minette, tu ne veux pas te marier ?»«
Moi, dit Valentine, je n'ai pas beaucoup réfléchi à cela. Quel est celui de vos petits gentilshommes qui m'a fait l'honneur de demander ma main? Car, en définitive, on peut accepter l'un et refuser l'autre. »«
C'est trop juste, dit la marquise. » dont les yeux mouillés riaient. « Tu raisonnes comme un ange. Il y en a donc au moins un parmi eux que tu accepterais sans répugnance.
Pour danseur, répliqua Valentine, j'en connais trois ou quatre qui ne sont pas maladroits, mais pour épouser... »
Elle s'arrêta, et son regard qui allait tout pétillant d'espièglerie du colonel à la marquise se voila soudain.
« Il y en a un qui ne danse pas, commença-t-elle à voix basse, celui-là. »
Elle s'interrompit encore et resta toute rêveuse. La marquise se pencha et attira le front de la charmante enfant jusqu'à ses lèvres.
« Si c'était Monsieur Remy Darx, lui dit-elle dans un baiser. »
Valentine éprouva comme un choc. Ses joues devinrent plus pâles que la batiste brodée de sa collerette. Elle garda un instant le silence, ses yeux baissés restaient cloués au sol.
« Eh bien, fit le colonel, tu ne réponds pas, Minette ?»
La marquise, déjà triomphante, murmura « Comme nous avions bien deviné !» Le sein de Valentine bondit, malgré le visible et violent effort qu'elle faisait pour en contenir les battements. Elle releva sur la marquise ses yeux hardis où brillait un éclat morne.
« Qu'est-ce que vous aviez deviné, ma mère ? » demanda-t-elle presque rudement.
La marquise se tut, étonnée et offensée. Le colonel ouvrit sa boîte d'or et grommela entre ses dents « Drôle de fillette, drôle de fillette !» Valentine attendit un instant, puis d'un ton sérieux et rassis
« Il faut me pardonner, madame, dit-elle, je n'ai point voulu vous manquer de respect. Vous savez bien que je vous aime, comme si vous étiez véritablement ma mère. »
Pour la seconde fois, la marquise l'attira contre son cœur, pendant que le colonel humait quelques grains de tabac d'un air songeur.
« Ils s'aimeront trop, dit-il en ricanant. Dans ce petit ménage-là, les baisers auront des dents et les caresses des griffes. »
Valentine eut un froncement de sourcils qui se termina en sourire. Elle retrouva l'exquise douceur de sa voix pour dire tout bas «
Bon ami, si vous pouviez voir le fond de mon cœur, vous ne vous moqueriez pas de moi. »
Puis elle ajouta, plus bas encore, « Est-ce bien vrai, Monsieur Remy Darx a-t-il réellement demandé ma main ?»«
C'est bien vrai, chérie, répliqua la marquise. As-tu pu croire qu'il fût possible de plaisanter sur un pareil sujet ? Veux-tu réfléchir, te consulter ? Veux-tu un jour, deux jours ?»
« Non, dit Valentine, qui se leva toute droite, je n'ai pas à me consulter, je suis décidée. » Ces mots furent prononcés d'un tel accent que Madame Dornan regarda le colonel avec inquiétude. Celui-ci n'avait jamais été plus calme.
« Eh bien, trésor, dit-il, si tu es décidée, donne-nous ta réponse pour que nous puissions la transmettre à ce cher ami qui attend. »
« Ah, fit Valentine, dont une inexplicable émotion étouffait la voix, Monsieur Remy Darx attend ma réponse. » Elle hésita, puis elle partit comme un trait, disant « Je vais la lui porter moi-même. » La marquise resta littéralement abasourdie, et la voix lui manqua pour rappeler Mademoiselle de Villanove, qui traversait déjà le salon en se dirigeant vers la serre où Remy Darx était seul.
« Mais courez donc !» s'écria la bonne dame, dès qu'elle se retrouva elle-même. « Moi, je suis toute saisie. Oh, cet enfant me rendra folle. Valentine, Valentine, voyez si elle m'entendra. »
« Drôle de fillette, » dit le colonel, qui ne bougea pas. La marquise parvint à se mettre sur ses pieds. Elle chancelait et tremblait.
« J'admire votre tranquillité, » dit-elle avec dépit, « mais il m'est impossible de la partager. »
« Marquise, répondit le colonel, moi je n'ai jamais eu de nerfs. Si j'en avais eu autrefois, il serait fondu depuis le temps. »«
Mais c'est inconvenant, s'écria madame Dornan, au comble de l'agitation. « Je ne suis pas collé monté, mais ceci passe les bornes, une jeune fille de son âge. »«
Ce sera une femme dans 3 semaines, bon ami. »«
Et que va-t-elle faire ?»«
Je n'en sais rien. »«
Il faut courir. »
Gardez-vous-en bien. Je ne demande pas mieux que de vous offrir mon bras, car vous voilà dans un état pitoyable, mais ce sera pour regagner votre table de whist. Je suis un peu médecin, vous savez, et je connais votre tempérament sur le bout des doigts. Je vous ordonne un robe et une tasse de thé au lait. Et tout en parlant, il s'était levé à son tour et présentait son bras galamment à la vieille dame qui le regardait d'un air courroucé.
« Bon ami, reprit-il, parlons un peu raison. Nous ne pouvons pas la refaire, n'est-ce pas? Elle est élégante, fine, spirituelle. Elle a, je l'espère, un excellent petit cœur. Elle portera en un mot, fort dignement, c'est moi qui vous en réponds, le nom du mari que vous lui donnerez. Mais vous savez où nous l'avons prise. J'ai connu une charmante enfant qui avait eu la danse de Saint-Guy vers l'âge où on l'a. Elle se guérit, mais elle ne fut jamais comme tout le monde. L'événement romanesque qui a tenu notre Valentine éloignée si longtemps du monde où elle devait vivre vaut 2 ou 3 douzaines de danses de Saint-Guy. Loin de nous en plaindre, en définitive, nous devons remercier la Providence qui, au lieu d'une de ses filles grossières, peuplant les lieux où Valentine a passé sa jeunesse, nous a fait retrouver une ravissante créature, originale, c'est vrai, mais où est le grand mal? Volontaire, mais tant mieux, elle sera la maîtresse dans son ménage. Bonne enfin, pas plus ignorante qu'une autre demoiselle de son âge, et tenant bien quand elle veut, éblouissante quand elle daigne être en belle humeur, et honnête avec cela comme toute une congrégation de petites puritaines. Certes, certes, fit la marquise, consolée par un mouvement d'orgueil, elle a bien gagné depuis qu'elle est avec moi, et dans notre cercle je ne vois aucune jeune personne qui puisse lui être comparée. Mais cette imagination d'aller chercher un tête-à-tête avec Monsieur Dark, c'est une force.
Comme tout ce qu'elle fait, cher ami, ni plus ni moins, elle va droit devant elle, à la manière des sauvages, c'est le plus court chemin, si on en croit la géométrie. Ce qui vous semble une énormité ne sera pas même remarqué, pour peu que vous laissiez aller les choses. Vous demandiez tout à l'heure « que va-t-elle faire ?» Moi, je vous répondais « je n'en sais rien, c'est l'exacte vérité, mais voulez-vous m'en croire, il n'y a rien de tel que ces petites luronnes pour conduire leur barque dans les passages difficiles. Ne vous inquiétez en rien et préparez la corbeille en attendant. » Ils avaient regagné le salon. Le colonel toucha du doigt l'épaule trapue du cousin de Saumur, qui avait dans son jeu 6 atouts, dont 3 honneurs. La marquise reprit la place qui lui appartenait légitimement et gagna le trique, quoiqu'elle pût entrevoir à travers le châssis de la serre, Rumi et Valentine en grande conférence derrière le yucca. Aussitôt que le colonel fut libre, monsieur le baron de la Perrière, qui semblait l'attendre, vint à sa rencontre. « Eh bien, fit-il après l'avoir respectueusement salué, tout va-t-il comme vous voulez, papa ?»«
Tu sais, répondit le vieillard d'un air fat, je suis né coiffé, j'ai une chance de posséder et de la corde de pendu dans toutes mes poches. Nous allons encore gagner cette partie-là, haut la main, et ce sera ma dernière affaire. »
« Dans 50 ans, papa, répliqua le coq, nous parlerons de votre retraite. Ne me gardez pas rancune pour un mot. Les vrais maîtres de billard sont ceux qui jouent bien et qui réussissent par-dessus le marché. Voilà qu'il se fait plus de minuit. Avez-vous des ordres à me donner ?»«
Après moi, l'amitié, répondit le colonel en s'appuyant familièrement sur son épaule, tu es celui qui fait le plus de carambolage. Aussi tu me succéderas, je l'ai promis, je l'ai juré. » Je le signerai quand tu voudras. J'ai oublié de te demander qui tu avais choisi pour soigner le flagrant délit au numéro 6.
Je me suis choisi moi-même, patron, répliqua le coq. Quand il s'agit de vous seconder, je ne m'en fie qu'à moi. Je vais de ce pas me mettre au lit, ici, près dans ma chambre, au troisième étage du numéro 6, porte à porte avec Monsieur Chopin, le professeur de musique, qui a une voix à réveiller tout le quartier. Comptez sur moi, au premier cri de Monsieur Chopin, toute la maison sera debout. » Le colonel lui prit la main et la serra. « Mon bon chéri, lui dit-il avec émotion, tu ne sers pas un ingrat, et quand le moment sera venu, tu verras bien si ton vieux maître t'aimait d'une tendresse sincère. » Ils se séparèrent, et Lecoq quitta l'hôtel d'Ornans en se disant, « Si on ne connaissait pas le vieux vampire, il serait capable de vous faire voir des étoiles en plein midi. » Valentine était entrée dans la serre d'un pas vif et résolu. Elle avait marché droit à Remy d'Arx, mais il arrive souvent aux enfants de se monter la tête, de courir étourdiment à l'assaut d'une situation, sûr qu'ils croient être d'eux-mêmes, et puis de s'arrêter tout à coup, manquant de parole ou de force. Valentine était une enfant. À la vue du jeune magistrat qui s'était levé à son approche et qui fixait sur elle son regard profondément troublé, elle s'arrêta interdite et confuse. Il y avait de la fièvre dans les yeux de Remy. On y lisait l'angoisse de sa longue attente, mais ce qu'ils exprimaient surtout, c'était un indicible étonnement. Ce fut cet étonnement même qui glaça le téméraire courage de Valentine. Les mots qu'elle comptait prononcer ne lui venaient plus, et ils restèrent un instant vis-à-vis l'un de l'autre, lui intrigué jusqu'à la détresse, elle cherchant en vain sa présence d'esprit qui la fuyait. « J'aurais mieux fait de ne pas venir, dit-elle enfin, vous allez me juger sévèrement peut-être. » « Moi, » balbutia Remy, tandis que ses mains se joignaient malgré lui. Il y avait un si profond amour dans ce geste et dans cette simple parole que Valentine eut le cœur serré. Elle tendit la main à Remy en murmurant, « J'avais tant de choses à vous dire, je croyais que vous me méprisiez. »« Moi, » dit encore Remy, d'une voix presque inintelligible, « vous ne m'adressiez jamais la parole, il me semblait que vous m'évitiez. » Remy fit un grand effort et répondit, « Vous ne vous trompiez pas, mademoiselle, j'ai combattu tant que j'ai pu, avec énergie, avec désespoir. » « Pourquoi ? » demanda-t-elle doucement. Un délicieux regard se glissait entre ses paupières demi-closes. Remy répondit encore, « Parce que, dès le premier moment, j'ai deviné que le malheur de ma vie était là. » « Mais pourquoi ?» répéta Valentine avec pétulance. « Quelque chose me disait, tu ne seras pas aimé. » « Et il n'y avait que cela, » murmura Valentine, qui eut presque un sourire. « Parlez franc, n'y avait-il que cela ?» Et comme la réponse du jeune homme se faisait attendre, elle ajouta impatiemment, « Alors vous ne m'aviez pas reconnu ?» Remy la considéra stupéfait. « Je suis bien sûr de ne vous avoir jamais vu, dit-il, avant ce soir où Madame la marquise d'Ornans me présenta à vous. »« Avant, » répéta Mademoiselle de Villanove et avec un accent étrange. Et puis, après un silence, elle ajouta tout bas, « Mais depuis... » Remy interrogeait laborieusement ses souvenirs. « Quand on ne devine pas du premier coup, reprit-elle d'un ton délibéré, il faut renoncer. Je vais vous aider, monsieur d'Arx, d'autant que ce sera une occasion de payer ma dette. Une jeune fille seule la nuit, dans un quartier désert. » « Sur le quai du jardin des plantes, » fit Remy, qui croyait rêver. « Serait-ce possible ?»« Oui, sur le quai, le long du jardin. La jeune fille portait un voile que des étudiants en goguette voulaient lui arracher. » Elle cherchait à rejoindre sa voiture, qui l'attendait à quelques pas de là, mais les jeunes fous lui barraient le chemin. Un passant entendit ses cris par bonheur, et par un plus grand bonheur, le passant était de ceux qui peuvent être timides vis-à-vis d'une femme, mais qui deviennent des lions en face du danger. Il tomba sur les insulteurs comme la foudre, et c'est à peine si la jeune inconnue, reconduite à sa voiture avec respect, eut-elle le temps de balbutier quelques mots de reconnaissance. « Dois-je donc croire que c'était vous ?» prononça tout bas Remy. « Vous devez le croire, monsieur d'Arx, puisque, du fond du cœur, je vous remercie en vous donnant le droit de me demander pourquoi, moi, mademoiselle de Villanove, et j'ai eu besoin de votre secours à cette heure et en ce lieu. » Remy porta la main qu'il tenait à ses lèvres. « Je douterais de moi-même, dit-il, avant de vous soupçonner. Rien ne vous forçait de faire allusion à un événement qui était si loin de ma pensée. »« Vous vous trompez, » repartit Valentine, dont la voix devint grave. À mes yeux, la recherche d'un homme tel que vous est un très grand honneur et un très grand bonheur. J'ai voulu vous apporter ma réponse moi-même pour vous dire non seulement quel prix j'attacherais à votre amitié, mais pour vous expliquer la raison d'un refus nécessaire qui me laisse dans l'âme un véritable regret. » Une pâleur mortelle couvrit le visage de Remy, qui porta la main à sa poitrine et dit « J'avais le pressentiment de mon malheur. » Il se laissa tomber sur un siège, et Valentine s'assit près de lui en ajoutant « Monsieur Darx, il m'est défendu d'être votre femme. » Ceci fut dit d'un tel accent que le jeune magistrat frémit en relevant sur elle des yeux épouvantés. Mais le regard qu'elle lui rendit était limpide comme ceux des anges. « Faux, fit-elle sans orgueil et avec un bon sourire, ce n'est pas cela. Je suis une honnête fille, et je puis bien répondre que je serai une honnête femme, mais à part ces deux points qui ne dépendent que de moi-même, tout ce qui me concerne est problème et incertitude. Allez, ne me regrettez pas. Mon passé, que vous connaîtrez, je le veux, aurait de quoi effrayer un homme dans votre position et tuerait peut-être sa carrière, son avenir. Un mot, un seul mot, interrompit Remy avec une ferveur passionnée. Avez-vous dans le cœur un autre amour ?
Oui, répondit Valentine. Elle ajouta étourdiment, sans cela, je crois bien que je vous aurais aimé.
Remy courba la tête. Elle le regarda d'un air triste, puis elle demanda, « Voulez-vous que je sois votre sœur ?»«
Au nom de Dieu !» fit le jeune magistrat d'une voix brisée. « Laissez-moi, ne voyez-vous pas comme je souffre ?»«
Si fait, répliqua-t-elle, et je ressens cruellement votre blessure, mais il n'est pas en notre pouvoir de nous séparer ainsi, monsieur Darx. Un lien que je ne saurais définir nous unit. Vous me connaîtrez demain, je vous l'ai dit, je le veux, mais je vous connais, moi, à votre insu, je sais... Quelle œuvre de mystérieuse vengeance vous avez dépensée en votre jeunesse? Vous poursuivez les assassins de votre père.
Ah, s'interrompit-elle, vous vous éveillez enfin, vous avez tressailli. Leurs yeux se rencontrèrent encore une fois. Jamais Remy Darx ne l'avait admirée plus belle. Elle continua, vous êtes un grand cœur, vous êtes une vaillante intelligence. Vous avez bien cherché, mais ils savent fuir comme les Indiens sauvages en cachant la trace de leurs pas. Qui sait, si pour vous je ne puis être l'amour, peut-être que je serai la vengeance. »
Remy la contemplait ardemment. « Les connaissez-vous donc ce que je cherche ? » demanda-t-il. Elle répondit, « J'en connais au moins un. »«
Son nom ! » s'écria le jeune magistrat.
Elle mit un doigt sur ses lèvres. « Pas ici, » prononça-t-elle en baissant la voix jusqu'au murmure. Nous en avons déjà trop dit dans cette maison où les murailles écoutent. Il faut que je vous revoie demain. Voulez-vous m'accorder une entrevue ?
En quel lieu ? Demanda Remy.
Chez vous.
Chez moi ? Répéta le jeune magistrat.
Nous serons seuls, reprit mademoiselle de Villanova d'un ton résolu. À dater de 6 heures du soir, vous défendrez votre porte.
Vous le voyez, monsieur Remy Darx, ajouta-t-elle en se levant, tandis que son beau sourire s'imprégnait de mélancolie. Je suis une étrange fille. Vous ne me regretterez pas longtemps. À demain soir, je serai chez vous à 6 heures.